Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
En pleine nuit, une sirène.
RTL.
Appelle au feu tous les pompiers.
Jusqu'à 22h.
Toujours présent, par tous les temps. Les sapeurs pompiers dans le vent.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Est-ce qu'on appelle les tuyaux?
C'est l'été, comme chaque année, les pompiers seront en première ligne pour que les vacances ne se transforment pas en cauchemar. Deux d'entre eux sont avec nous, le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, le colonel Grégory Allion, qui est en direct de Marseille, et puis dans le studio RTL de la Curiosité, le lieutenant Patrick Rossi, pompier en Seine-et-Marne, près de Fontainebleau, c'est ça? Bonsoir.
Bonsoir.
Patrick
Rossi,
bienvenue. Chaque année, 10 000 personnes pourraient être sauvées si un Français sur 5 connaissait les gestes qui sauvent. On est encore loin de ce chiffre?
Oui, tout à fait. Oui, nous sommes encore loin de ce chiffre-là. Je pense que ça ne fait pas partie de la culture encore du français. Il a encore trop peur de porter secours aux gens.
Il y a des pays où on le fait plus ?
Oui, il y a des pays, les pays anglo-saxons font beaucoup plus que nous. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même, il y a quand même des choses qui sont faites, puisqu'il y a un décret qui est sorti il y a quelques années maintenant pour mettre en place la formation déjà dans les écoles. Mm-hmm. Puisque normalement, aujourd'hui, tous les collégiens devraient être titulaires du PSC1, c'est-à-dire le prévention et secours civique de niveau 1. Chose qui est en train de se mettre en place, mais qui est très long. Et il y a aussi un autre texte qui est en cours, qui est sorti déjà sur la formation ou permis de conduire.
C'est-à-dire, dans le cadre de cette formation, on apprend les gestes qui sautent,
c'est ça ? On ne sait pas encore s'il faudra avoir, on ne sait pas non plus le contenu avant d'aller passer son permis, ou ça fera partie de la formation pour pouvoir avoir le permis de conduire.
Et dans l'entreprise aussi ?
Alors, dans l'entreprise, ça existe toujours, depuis des années, où c'est plus du SST, le sauveteur secouriste du travail. Nous faisons aussi des formations là-dessus. Mmh. Et là, c'est plus de la prévention au risque professionnel. Où il y a bien sûr aussi du secourisme.
Donc je disais, un Français sur cinq, on pourrait sauver 10 000 vies chaque année. On est à quoi ? Donc ça fait 20%, on est à quoi ? Moins de 10% aujourd'hui ?
Oui, à peu près, oui. À peu près, oui. Oui, il reste encore beaucoup de choses à faire.
En quoi consiste la formation de secourisme, lieutenant Patrick Rossi ?
Alors il y a plusieurs sortes de formations, mais celle qui est la plus connue et celle qui est le plus répandu, c'est le PSC1, donc la prévention au secours civique de niveau 1, qui est une durée de 7 heures et qui est essentiellement pratique, où là, les gens sont mis en situation d'accident et ils font un jeu de rôle et ça leur permet de mieux aborder ensuite les face aux accidents.
Par exemple, comment se comporter quand il y a un accident de la route ?
Accident de la route.
Premier réflexe. Bah, d'ailleurs, je vous pose la question.
Accident de la route. Bah, la première chose à faire, je dirais, ce serait déjà de prendre du recul pour déjà s'assurer qu'il n'y ait pas de danger pour soi, pour les témoins, et ensuite, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de danger en plus pour les victimes qui sont déjà là. Ensuite, c'est d'aller voir l'état des victimes, donc ça s'apprend dans la formation, pour ensuite donner une bonne alerte avec une bonne adresse et un état des victimes.
C'est-à-dire appeler les services de secours en ayant déjà une vision un petit peu...
Ça permet au secours d'adapter les besoins à envoyer sur l'intervention.
Alors, puisqu'on parle d'accident de la route, on va rejoindre Grégory Allion, le colonel Allion, qui est dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille. Bonsoir, colonel.
Bonsoir, Thomas Hugues.
Il y aura beaucoup de monde sur les routes du sud de la France cet été. Est-ce qu'il y a quelques conseils de base à donner aux automobilistes avant qu'ils prennent la route, déjà ?
Bon, écoutez, je vais reprendre ce que disait un petit peu le collègue, le lieutenant Rossi. C'est qu'effectivement, ce que l'on sait, c'est que la fatigue, et notamment les jours de grand trajet, est un facteur déterminant dans les accidents. Et donc, effectivement, tous les conseils de la prévention routière qui consistent à ne conduire que 2 heures et ensuite se reposer, se délasser sur les aires d'autoroute, il faut le suivre, ce conseil-là. Il faut effectivement aussi respecter les distances de sécurité et notamment lire toutes les indications qui sont sur les panneaux d'affichage variable. Ces panneaux qui vous indiquent un événement sur l'autoroute, qui vous indiquent la conduite à tenir en cas de sinistre et qui vous demandent effectivement de prendre des précautions et d'éventuellement, lorsqu'il y a des ralentissements, puisque quand il y a beaucoup de monde, il y a souvent des ralentissements, voire des bouchons, c'est effectivement d'indiquer par les feux de détresse que ce ralentissement a lieu et de prévenir celui qui vous suit afin d'éviter l'accident.
On parle aussi, on parle aussi de suraccident. C'est quoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter ?
Il y a quelque chose qui a été dit par le lieutenant Rossi, c'était de se mettre de suite en sécurité. Et effectivement, lorsqu'il y a un événement, il faut commencer à prévenir les autres de cette situation-là. Donc, lorsqu'on est toujours dans sa voiture, c'est effectivement d'indiquer par les feux de détresse qu'il y a un ralentissement ou un accident. Ça, c'est la première des choses. Et lorsque l'on est accidenté ou lorsque l'on a un problème sur son véhicule, c'est de se mettre immédiatement à l'abri. Alors, le premier abri est notamment sur l'autoroute, puisqu'on parle des grands transits qui vont arriver à l'orée des vacances, c'est la bande d'arrêt d'urgence, qu'on appelle la BAU, la bande d'arrêt d'urgence. Et s'il vous arrive quoi que ce soit, c'est de sortir du véhicule et de vous mettre immédiatement derrière les barrières de sécurité avec le gilet jaune. Parce que l'espérance de vie sur une autoroute en moyenne ou sur une route est de 15 à 20 minutes. Donc la meilleure des protections, c'est de se mettre à l'abri derrière les barrières et surtout de ne pas disposer le fameux triangle de signalisation que l'on a tous dans notre véhicule. Sur l'autoroute, il ne faut pas le disposer parce qu'on se met en danger. Il faut le disposer uniquement sur les routes départementales ou les routes qui ne sont pas des autoroutes.
Lieutenant Rossi, si on veut prendre des cours de secourisme, on s'adresse à qui ?
Il y a beaucoup d'associations qui le font. Par exemple, l'association des pompiers, donc à travers la fédération, les unions départementales font des formations dans tous les départements. En principe, toutes les casernes sont en mesure de vous renseigner pour voir où pouvoir être formé.
Il y a une limite d'âge ? Il faut avoir plus de 18 ans, moins
non,
de...
Non, c'est 10 ans minimum. Pour le PSC1, la formation donc la plus répandue, il faut avoir 10 ans minimum. Après, il n'y a pas de limite d'âge.
C'est jamais trop tard.
On peut commencer
à 70, 75, 80 ans.
C'est cher.
Alors, c'est vrai qu'il y a un coût, ça varie entre 40 et 50 euros, en principe, la formation.
Oui, mais pour sauver une vie.
Oui, pour sauver une vie, c'est quand même pas mal.
Et ça prend du temps ?
Ça prend 7 heures. Alors, nous avons déjà mis une formation en FOAD, c'est-à-dire la formation ouverte à distance, ce qui fait que les gens de chez eux font déjà toute la partie théorique via Internet. Et ensuite, ils n'ont plus que 4 heures. Donc, ce qui fait que ça réduit considérablement le temps. Et ils ont après la même formation.
Est-ce qu'on est diplômé à l'issue de cette formation de secourisme ?
Oui, il y a un certificat de compétence, qu'on appelle le certificat de compétence PSC1, donc Prévention et Secours Civique de numéro 1, qui est valable à vie, malgré
qu'il faut quand même le
conseiller
repasser,
de régulièrement faire une piqûre de rappel.
Est-ce qu'il est indispensable, ce brevet de secourisme, pour intervenir en cas d'accident ?
Ce n'est pas le diplôme qui est indispensable.
C'est la connaissance.
C'est prendre conscience qui est nécessaire de suivre une formation pour mieux aborder face à un accident.
Oui, mais il peut y avoir des mauvais gestes aussi. C'est-à-dire que parfois, on veut bien faire et on peut aggraver une situation.
Oui, mais il est beaucoup plus rare d'aggraver que de rien faire. C'est beaucoup plus grave de ne rien faire.
D'accord.
Tout à fait, c'est beaucoup plus grave.
Alors, les pompiers, ils nous viennent en aide, parfois au péril de leur vie. Si vous voulez les aider, je vous signale le premier festival de musique qui est organisé en faveur de l'ODP. C'est l'association qui prend en charge les orphelins des pompiers. Ce festival, il se tient à Talence, près de Bordeaux, du 1er au 4 juillet, avec des stars comme Kenji Girac, Zaz, Benabar, Magic System ou Renan Luce.
Ou encore Thomas Hugues.
Oui, on y sera avec Eric Jean-Jean, puisque je suis le parrain de l'ODP. Voilà, c'est aussi un peu pour ça qu'on vous parle des gestes qui sauvent et du travail des pompiers pendant l'été, on a envie d'aider cette association.
Et on continue de vous donner des conseils de commencer à apprendre les gestes qui sauvent grâce à nos invités. Que faire par exemple en cas de brûlure ?
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Faire les gestes qui sauvent, connaître les gestes à ne pas faire aussi. On vous donne des conseils pour l'été grâce à nos invités, Patrick Rossi, lieutenant de pompiers en Seine-et-Marne, et le colonel Grégory Allion, directeur départemental des services d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Grégory Allion, vous êtes avec nous en direct de Marseille. Vous allez nous expliquer quel dispositif de prévention et d'action contre les feux de forêt est mis en place pour les vacances. Mais d'abord, rappelez-nous un peu les gestes à ne pas faire. Bon, j'imagine le mégot de cigarette jeté par la fenêtre de la voiture, c'est pas une bonne idée.
Non, vraiment pas.
C'est même trop dangereux.
Il faut avoir un comportement différent, complètement différent de ce que l'on peut avoir en milieu urbain. Nous avons un milieu naturel qui effectivement est très sensible et devient très sensible avec les grosses températures, les grosses chaleurs que nous avons actuellement. Et nous avons un environnement qui est prêt à s'enflammer à tout moment.
Pour les randonneurs, pour les campeurs, quelles sont les précautions de base que vous pourriez nous livrer ?
La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'au quotidien, sur l'ensemble des sites des préfectures, des sites internet des préfectures, des départements de la zone sud de la France, vous avez tous les conseils pour pénétrer, randonner à l'intérieur des massifs forestiers. Alors, soit sur les sites des préfectures, soit sur les sites des sapeurs-pompiers qui font un renvoi, effectivement, sur les sites préfectoraux. Et vous avez l'autorisation ou pas en fonction des risques, d'une part, et ensuite l'ensemble des conseils, comme ne pas faire de feu, comme ne pas camper, ne pas faire de bivouac et ne pas avoir d'attitude avec les mégots de cigarettes, comme vous le signaliez, à l'intérieur de ces massifs qui sont très sensibles à cette période.
Ça veut dire qu'il y a des périodes où un massif peut, où une zone peut être interdite à la randonnée, au camping. La situation de la forêt dans votre département, par exemple aujourd'hui, est-ce qu'elle est fragilisée par la sécheresse ou est-ce que c'est plutôt une année calme, si j'ose dire ?
Écoutez, la météo actuellement nous a permis, il y a 15 jours, d'avoir quelques pluies qui nous donnent un peu de répit. Mais à ce stade, les températures d'aujourd'hui et celles à venir sont assez inquiétantes parce que on est en train de voir dépérir nos arbres en ce moment sous l'effet de la température. Donc les températures élevées qui ravissent tout le monde en ce moment ne sont pas l'ami du massif forestier dans le sud de la France. Et qui plus est, dès l'instant où un vent se met à souffler, les vents de terre comme le Mistral, la Tramontane que vous connaissez également dans le sud de la France, dès l'instant où ce vent se met à souffler, effectivement, les massifs sont dangereux, donc ils sont exposés au risque d'incendie. Et tout risque d'incendie provient généralement de l'activité humaine. 60 à 80% des incendies sont liés effectivement à l'activité humaine à l'intérieur des massifs. Et donc, il est dangereux d'y pénétrer, non seulement parce qu'on est une cause d'incendie, mais en plus parce qu'on risque d'être piégé par ces départs de feu.
Colonel Allion, est-ce qu'il y a des zones à risque, des forêts dans lesquelles des hommes sont déjà en attente, prêts à intervenir ?
Écoutez, au quotidien, dès ce week-end, nous allons monter en puissance. Ce sont plus de 800 personnes dans le département des Bouches-du-Rhône qui sont à pied d'œuvre dans des endroits bien particuliers avec des sites justement à protéger ou des accessibilités particulières pour bondir, je dirais, sur le premier départ de feu. La prévention, c'est quoi ? C'est effectivement tout un dispositif. C'est plus de 30 vigies, 30 tours de guet. Typiquement, c'est un peu les phares de nos massifs forestiers qui surveillent, qui veillent justement à toute fumée suspecte. Nous avons su compléter dans les Bouches-du-Rhône ce dispositif-là avec des patrouilles forestières que nous mettons en place avec les comités communaux feux de forêt, avec le conseil départemental, mais aussi nous avons complété ce dispositif avec des caméras de surveillance. Nous avons des caméras de surveillance qui sont disposées à certains endroits critiques, notamment les nœuds autoroutiers, les nœuds routiers qui sont dans les massifs forestiers, parce que nous savons que l'activité routière est aussi un fléau, un risque d'incendie potentiel. Et nous avons complété ces dernières années par un dispositif innovant également, c'est que nous avons un avion d'aérosurveillance qui survole le département des Bouches-du-Rhône à haute altitude et qui a une caméra d'une haute précision et qui nous détecte l'ensemble des départs de feu, l'ensemble des points chauds sur notre département, ce qui nous permet d'avoir en temps réel une situation et une évolution de tout départ de feu.
Colonel Allion, j'avais visité la base des Canadair à Marignane il y a une dizaine d'années. J'imagine qu'ils sont toujours basés sur place. Comment ils fonctionnent ? Vous pouvez nous dire combien d'eau ils peuvent embarquer ? Quelle précision ils ont dans leur largage ?
Alors je dirais que nos hélicoptères bombardiers d'eau, comme les avions bombardiers d'eau de la sécurité civile, je dirais qu'ils interviennent de manière chirurgicale et complétés justement par nos avions de commandement et nos hélicos de commandement qui permettent d'orienter, de guider les guidages. Ces avions qui sont disposés à Marignane, donc nous avons 12 Canadair, les Canadair sont bien connus, ce sont nos avions jaunes qui écopent au sein d'un lac ou en mer Méditerranée et qui déposent leur eau sur le front de flamme. Nous avons également des trackers, ce sont les avions rouges et blancs que les gens du sud ou les gens qui sont en vacances connaissent bien, qui tournent tout au long de l'été et des périodes à risque et qui lâchent 3500 litres de produits retardants, c'est le produit rouge, au tout départ de feu pour essayer de le circonscrire dans les plus brefs délais. Tout ce dispositif est complété par des avions beaucoup plus conséquents, des avions qui disposent de 10 000 litres, mais également de produits retardants rouges, pour permettre de préparer l'action des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire de lâcher du retardant, de faire en sorte que le feu diminue d'intensité, afin que les hommes au sol puissent lutter plus en sécurité.
Patrick Grossi, on revient aux gestes qui sauvent, puisqu'on parle d'incendie. Il faut rappeler une obligation qui concerne les habitations, c'est le détecteur de fumée. Pourquoi est-ce que c'est vital d'en installer un chez soi ?
Quand on sait qu'il y a un incendie, il y a un incendie à peu près toutes les deux minutes.
En France,
que 70% des feux ont lieu la nuit. La nuit, la plupart des gens dorment.
Mais chez soi ?
Oui, tout à fait. Enfin, un incendie en général, 70% des feux, ça ne comprend pas que les domiciles. Mais les feux ont lieu pratiquement la nuit. On dort, bien sûr, la nuit, donc on ne sait pas ce qui se passe. La fumée qui envahit notre appartement, ce qui fait qu'on dort, on s'asphyxie et on ne se réveille pas. Donc, un détecteur permet de sauver pas mal de vies.
Parce que ça se met à biper, c'est ça,
tout à fait.
Avec la fumée.
Dès que le détecteur dit précocement, ressent la fumée, il nous alerte par une alarme qui est quand même assez...
Et ça marche bien, parce que j'ai un peu raté mes nems l'autre jour, et mon déclement, pardon, je ne trouve plus le mot, mon détecteur de fumée, je peux vous dire que ça fait un bruit.
Oui, tout à fait.
À réveiller les morts, hein, c'est terrible. Mais, et donc ça marche.
C'est le but.
Et donc j'ai appris à cuisiner les nems entre-temps.
C'est bien. Vous avez vu, lieutenant, aussi des accidents mortels qui auraient pu être évités avec un détecteur de fumée. Ça arrive souvent.
Ah oui, assez souvent. Heureusement, on n'en voit pas tous les jours, mais assez souvent.
Parce qu'on est d'abord asphyxié par la fumée, c'est
ça ? Tout à fait. C'est-à-dire que, puisqu'on ne voit pas le feu arriver, et que la fumée, c'est la première chose qui, dans un incendie, ça commence principalement par de la fumée, on est asphyxié en dormant, donc on ne se réveille pas. On ne meurt pas vraiment de brûlure, on meurt d'asphyxie. Et ça, les gens, il faut qu'ils en prennent conscience.
Autre accident domestique, que faut-il faire, par exemple, si un enfant se brûle avec de l'eau bouillante ou un objet chaud ? Comment est-ce qu'on peut le soulager au plus vite ?
Le réflexe qui commence à rentrer dans les mœurs, c'est de refroidir. Refroidir avec quoi ? Avec de l'eau du robinet.
Et ça, c'est une bonne idée.
C'est une très bonne idée. Quand vous mangez un morceau de viande, c'est chaud, qu'est-ce que vous faites ? Vous soufflez dessus pour le refroidir. C'est parce qu'il a emmagasiné de l'énergie. C'est un petit peu pareil quand vous vous brûlez, vous emmagasinez de l'énergie. Donc, c'est fait que ça continue à brûler. Le fait d'arroser, stop, appel à brûlure.
On peut aller jusqu'au glaçon, non ? C'est un peu fort.
Non, surtout pas de l'eau. Bien de l'eau fraîche du robinet.
Donc,
ça suffit.
La main ou la partie du corps brûlée sous le robinet avec de l'eau froide. On apprend les gestes qui sauvent ce soir sur RTL. Et je rappelle que si vous voulez aider l'association qui prend en charge les pupilles, les orphelins des sapeurs-pompiers de France, vous pouvez joindre le généreux, l'utile et l'agréable en allant à Talence près de Bordeaux assister au concert de Kenji Girac, Benabar, Zaz, Renan Luce et Magic System. Ça s'appelle le Festival ODP. C'est le premier du genre. Ça se tient du 1er au 4 juillet à Talence.
Vous écoutez RTL.
Dragon 75 pour le greppe.
RTL.
Ouais, donc je t'entends à l'approche. Hein.
Jusqu'à 22h.
Ouais, on va établir une corde. On va vous prendre avec nous.
Vous allez venir dans le vide.
La curiosité est un vilain défaut.
Pour sauver des vies, les pompiers s'exposent aux situations les plus extrêmes, souvent à très haute altitude.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Vous ne connaissez pas les gestes de premier secours, les gestes qui sauvent. Il n'est jamais trop tard pour les apprendre avec les pompiers, justement, avec l'été qui commence. C'est le bon moment. Nos invités, Patrick Rossi, lieutenant en Seine-et-Marne, et le colonel Grégory à Lyon, qui commande les pompiers des Bouches-du-Rhône, sont là pour nous aider d'une manière générale. Patrick Rossi, la première action en cas d'accident, qu'il soit domestique, de la route ou autre, c'est quoi ? C'est de donner l'alerte quand même ?
D'abord la protection, ensuite donner l'alerte.
Et alors, qui il faut appeler ? Il faut appeler quel numéro ?
Aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de numéros. Il y en a un qu'on est en train de mettre en place au niveau européen, c'est le 112. Si déjà au moins tout le monde connaissait le 112, ça serait très bien.
Donc il est opérationnel aujourd'hui,
il est
ce
opérationnel.
Numéro, et il envoie où ? Il envoie vers les pompiers, vers le SAMU, ça dépend ?
Non, oui, ça dépend. Il y a des départements, c'est le 15, il y a des départements, ça correspond aux 18, les pompiers. Majoritairement, les pompiers. Mais ils ont un rôle, après, d'aiguiller et d'envoyer au bon interlocuteur.
Et on rappelle, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, que... Avant d'appeler le 112, il faut peut-être avoir visualisé la situation
exactement.
Pour trouver les mots et expliquer aux secouristes ce qu'ils vont devoir faire.
Un exemple tout simple, un bus qui est dans un ravin, enfin un fossé, retourné, on va regarder s'il est tout seul le chauffeur ou s'il y a plusieurs personnes.
Bien sûr.
Il est clair qu'on ne va pas envoyer trop d'engins pour un chauffeur. Donc c'est quand même important d'aller voir. Et puis l'état de gravité des personnes, si elles parlent, si elles sont inconscientes, s'il y a beaucoup de sang, enfin, ça fait pas mal de choses à regarder. Donc il est important de protéger, de regarder et ensuite d'alerter.
On continue nos travaux pratiques. Patrick Grossi, une personne dans la rue qui perd connaissance.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Là, toujours pareil, on s'assure qu'il n'y a pas de danger. Ensuite, on va regarder cette personne et on va s'assurer qu'elle est encore en vie, c'est-à-dire qu'elle respire, cette personne. Et si elle est juste inconsciente qu'elle respire, on va pouvoir la mettre sur le côté. Ce que tout le monde connaît, le mot PLS. c'est la position latérale de sécurité.
Parce que parfois on dit qu'il ne faut pas bouger les personnes qui ont été accidentées ou qui sont tombées dans les pommes.
Il ne faut pas bouger inutilement. Voilà. Mais une personne inconsciente à plat dos, si on la laisse comme ça qu'elle vomit, eh ben on va faire quelqu'un qui va mourir parce qu'elle va s'étouffer dans son vomi. Donc il vaut mieux la mettre sur le côté, comme ça au moins
les jambes vomis, un peu repliées, voilà. C'est ça.
Oui, alors il y a toute une technique, tout à fait. On la met sur le côté. Il y a un bras qui est aussi sous la tête pour pas que la tête parte contre le sol. Et puis il y a avec les jambes, on permet de la caler de façon à ce qu'elle puisse rester comme il faut en position latérale de sécurité. Pour quelqu'un qui a appris, c'est très simple. Pour une autre personne, eh bien qu'elle le mette sur le côté comme elle peut, ça sera déjà pas mal.
Est-ce qu'on peut se former un peu sur Internet, par exemple, si on n'a pas forcément les moyens de se payer une formation? Est-ce qu'il y a des...
Oui, mais ça ne remplacera jamais une formation. Ça ne remplacera jamais une formation. Ça permettra de savoir ce qu'il ne faut pas faire.
Colonel Allion, on vous retrouve depuis Marseille. L'été dans le sud, évidemment, les températures en ville peuvent devenir suffocantes. Est-ce qu'il y a quelques réflexes, là aussi, quelques bons conseils à donner en cas de forte chaleur? Tous les étés, on voit par exemple des histoires d'enfants oubliés dans les voitures. Ça arrive encore, ça?
Malheureusement, oui, parce que des gens n'ont pas conscience, effectivement, des températures qu'il fait dans le sud de la France. Alors, typiquement, il y a des moments de la journée où il vaut mieux éviter de sortir, et notamment les personnes fragiles, les personnes âgées, les enfants en bas âge. Donc, je dirais qu'entre midi et 16, voire 17 heures, les périodes où le soleil est le plus fort, le plus violent, il faut éviter de sortir de la maison, se calfeutrer. Je dirais même, aujourd'hui, on a des villas qui sont avec de grandes dévitures. Mais au contraire, il faut fermer et faire en sorte de vivre presque dans la pénombre pour préserver un peu de fraîcheur au sein de cette partie-là. Et surtout, ne pas attendre d'avoir soif. En fait, on se déshydrate beaucoup plus vite que ce qu'on le pense, et la soif est la dernière alerte qui nous dit que finalement on a commencé déjà cette forme de déshydratation. Et notamment les personnes âgées n'ont pas l'habitude de boire régulièrement. Il vaut mieux les forcer, mieux les habituer, même du sirop pour que ce soit plus agréable. Mais effectivement, les personnes sensibles et les personnes fragiles, il faut s'en préoccuper, et le frais et l'eau sont les meilleures garanties de les préserver face à cela.
Patrick, aussi les gestes de premier secours, est-ce qu'ils sont les mêmes pour un enfant et un adulte?
Sensiblement, oui. Il y a quelques petites différences, mais on adapte. C'est principalement la force. Par exemple, pour un massage cardiaque, on va masser beaucoup moins fort chez un enfant. Mais globalement, oui, ça reste les mêmes gestes qu'on adapte, à part quelques petites choses qui ne se font pas chez le nourrisson et qui se font chez l'adulte et chez l'enfant. Oui, ça reste très voisin, bien sûr.
Par exemple, quelqu'un qui fait dans un supermarché un arrêt cardiaque, la conduite à tenir, c'est quoi?
C'est la même de l'enfant au nourrisson. Bien sûr, c'est de regarder si elle respire, et si on est sûr qu'elle ne respire pas, ben là, on va donc masser, c'est-à-dire qu'on va comprimer sa cage thoracique de façon à faire une circulation artificielle, et on va souffler dans la bouche pour envoyer de l'air dans les poumons. Et bien sûr, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de demander un défibrillateur, puisque c'est quelque chose qui se démocratise. On trouve des défibrillateurs de plus en plus. Donc c'est de demander, parce que dans un supermarché, il y en aura.
Oui, mais on ne sait pas s'en servir.
Alors là,
il y a un mode d'emploi dessus quand que...
Mais est-ce qu'on a le temps de le lire?
Il n'y a pas besoin. Autant notre smartphone, c'est très compliqué que là.
Ça marche comment?
Hey, il suffit de l'ouvrir, il vous parle, vous faites ce qu'il vous dit.
Il nous parle,
oui,
c'est vrai?
Oui, tout à fait, il vous parle. Et il y a même des schémas, c'est deux autocollants, comme je dis, c'est deux patchs qu'on colle sur la cage thoracique, et après on laisse faire la machine. Donc il fait tout seul.
C'est tout simple.
Et on augmente les chances de survie de 10% en plus. Donc c'est quand même très important. On sauve des vies grâce à ça. Et là, sans formation, franchement, il faut y aller. Il faut juste oser le faire.
Allez, dernier petit exemple rapidement, perte de sang, coupure, hémorragie, c'est quoi le bon geste?
Hémorragie, si ça saigne abondamment, c'est d'appuyer là où ça saigne, si possible en se protégeant avec un sac plastique, un linge, et puis bien sûr d'allonger la victime et d'alerter, plutôt de faire alerter, parce que sinon il faut faire un pansement pour pouvoir se libérer, pour faire l'alerte.
Donc maintenir un point de...
Un point de compression, enfin c'est pas un point de compression, c'est une pression directement sur la plaie. Point de compression, c'est autre chose. C'est un pansement compressif quand on a un pansement, mais sinon on appuie directement sur la plaie.
Merci beaucoup, lieutenant Rossi, d'être venu dans notre studio sur RTL. Merci, colonel Allion. On vous souhaite à tous les deux un été calme, et je rappelle que si vous voulez aider l'ODP, l'association qui prend en charge les orphelins des pompiers, vous pouvez acheter des places pour le festival ODP qui se tient du 1er au 4 juillet à Talence. Talence, c'est près de Bordeaux, une région qui m'est chère. Beaucoup d'artistes viendront chanter. Benabar, Zaz, Magic System, Renan Luce et Kenji.
Quand je pense que vous allez chanter, Thomas Hugues, ça me fait vraiment plaisir. Je ne ferai pas de duo avec vous, vous ne voulez pas proposer,
si
remarque.
Vous pouvez venir si vous voulez, mais avec Eric Jean-Jean, on va faire des petites présentations des artistes et évidemment dire aussi un mot de l'ODP.
Vous écoutez RTL.